On commence notre étude. Ça fait qu'on est rendu dans le chapitre 3 de Ruth. On a déjà avancé dans le chapitre 3. On est rendu au verset 12. Mais on va lire peut-être tout le chapitre au complet quand même pour se replacer dans le contexte du chapitre 3 de Ruth au verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint après auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole, donc on va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ta bonté envers nous. On te remercie de ce que tu désires nous instruire, Seigneur, dans ta parole. Puis ta parole est remplie de trésors pour nous, Seigneur. Puis on veut les chercher, on veut découvrir ce que tu nous as donné. Merci pour ton esprit qui agit avec ta parole pour nous faire connaître ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On t'en rend grâce dans son nom précieux, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait terminé la dernière fois. C'est sûr qu'on avait dit que le chapitre 3, c'est le chapitre où Ruth va chercher son repos. Elle va le trouver dans le chapitre 4, mais on avait avancé dans ce chapitre-là parce qu'elle était allée s'identifier à Boaz qui était allait vanner les orges dans l'air. C'est un travail que lui-même faisait. Les serviteurs avaient fait la récolte, mais c'est lui qui séparait la paille du blé ou des orges ici. Et c'est lui qui faisait ce travail-là durant la nuit, on avait dit, parce qu'il y avait dans l'air, c'est un plancher d'habitude qui était élevé pour, après une journée chaude, le vent soufflait, puis c'était favorable pour vanner, c'est-à-dire jeter en l'air toute la paille et le grain. Mais la paille s'envole au vent, puis le grain reste. Le grain reste. Et là, on avait fini en disant que en parlant de Ruth, Naomi l'appelle ma fille. Boaz l'appelle aussi ma fille. Puis c'est le féminin de Ben qui, c'est comme un fils. Ben, c'est le fils qui va construire la maison ou la famille. Puis là, mais maintenant c'est une fille. C'est Ruth qui est cette fille-là qui peut construire la famille. Puis on sait que c'est en rapport avec la postérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que son mari, Élimélec était mort, son mari aussi était mort, donc la postérité s'arrêtait là. Et maintenant, elle devient la seule qui peut ramener la postérité, puis c'est ce qui va arriver avec elle dans son repos, c'est ça qu'elle va trouver. Donc, elle comprenait le sérieux de son rôle, puis elle le prenait, l'importance de son rôle, puis elle le prenait vraiment au sérieux. C'est pour ça qu'elle est allée vers Boaz, c'est ça qu'il lui a dit, parce que ce trait-là, il dit qu'il était encore plus grand. Il témoignait plus en faveur de elle que le premier trait, parce qu'il dit qu'elle n'avait pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. Elle avait cherché vraiment celui qui avait le droit de rachat pour amener la postérité. Donc, elle comprenait l'importance de son rôle, puis elle le prenait au sérieux. C'est pour ça que Boaz, lui, il répond à la demande de Ruth. Elle lui avait dit d'étendre son aile puis de racheter parce qu'il avait le droit de rachat. On avait dit aussi que c'est en fait, non seulement il avait le droit de rachat, mais il avait le devoir de racheter selon la loi. On avait été voir dans l'Exode au chapitre 21. Puis maintenant, Ruth, maintenant c'est lui qui répond. Auparavant, Ruth avait été obéissante. Elle avait toujours répondu, premièrement, à sa belle-mère, à Naomi, qui lui disait les instructions, puis elle faisait tout ce que Naomi lui avait dit. Puis aussi, Boaz lui avait donné des instructions de ne pas aller dans d'autres champs, de rester avec ses servantes jusqu'à la fin de la moisson. Puis elle avait obéi toujours à ces instructions-là, parce qu'elle était sérieuse, elle cherchait. Puis elle voulait vraiment profiter pleinement de la situation. Donc, elle avait été obéissante, avait répondu aux exigences de Boaz, mais maintenant, c'est lui qui va répondre. C'est lui qui va répondre. Elle a demandé, étends ton aile, puis rachète. C'est lui maintenant qui va faire ça. Dans 2 Timothée 2, au verset 11 à 13, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, parce que là, c'est ça qu'on dit, elle s'était identifiée avec lui dans l'air, le soir, elle avait découvert ses pieds, s'était couchée à ses pieds, ce qui représente notre identification avec le Seigneur Jésus dans la mort, dans l'ensevelissement, puis maintenant, ça va être dans la résurrection. Donc, il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, c'est dans cette mort-là, puis la résurrection, mais c'est pour afin de vivre d'une nouvelle vie. Nous vivrons aussi avec lui si nous persévérons. Nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Puis c'est ça que Boaz il dit ici dans le verset. Attendez un petit peu. Dans le verset 11, il dit, je ferai pour toi, tout ce que tu diras. Dans le verset 11, c'est ce que Boaz dit à Ruth. Maintenant, il va faire pour elle tout ce qu'elle a demandé. Ça nous amène à réfléchir sur le fait que des fois, il y a des gens qui disent accepter le Seigneur, puis ils disent c'est comme si eux autres sont engagés envers le Seigneur. Mais s'engager envers le Seigneur, ça ne nous donne pas d'assurance. Mais c'est que le Seigneur s'est engagé envers nous. Ça nous donne l'assurance. C'est que je parlais avec quelqu'un une fois, puis il disait qu'il s'était engagé envers le Seigneur, puis il avait tombé. Puis là, il disait qu'il s'était engagé de nouveau. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé quand tu as tombé? Est-ce que tu étais encore sauvé? Mais là, il ne savait plus. Puis là, j'ai dit, là, tu t'es réengagé encore. Puis ce qui arrive, si tu te relâches encore. Mais j'ai dit, le salut, ce n'est pas nous qui s'engageons avec le Seigneur, c'est qu'on se confie en lui, c'est lui qui s'engage envers nous. Puis le fait que lui s'engage envers nous, ça, c'est notre assurance. Parce que, comme il dit, si on est infidèle, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est lui qui fait la promesse. Comme Boaz avait dit, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Dans Jean 17, 19, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Quand il est dans sa prière sacerdotale envers le Père, il dit, et je me sanctifie. Sanctifier, c'est se mettre à part. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, qu'ils soient mis à part. C'est le Seigneur qui s'engage envers nous. Il s'est engagé de nous prendre où nous sommes venus à lui. Il nous prend de là tel que nous sommes, on vient à lui tel qu'on est, mais lui nous prend de là et il s'engage à nous emmener dans la gloire. Puis la destination finale, ça va être dans la gloire. Puis ça, c'est le Seigneur Jésus vraiment qui s'est engagé à faire cela pour nous. Puis ça, c'est ce qui nous donne l'assurance. Autrement, on n'aurait pas d'assurance. Mais ça nous donne une assurance merveilleuse. Puis, comme Paul pouvait dire dans 2 Timothée 1 au verset 12, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Hein, quand on parle d'un dépôt, quand on va à la banque, on met un dépôt à la banque, ben, on le met là parce qu'on a confiance qu'ils vont garder ce dépôt-là, puis ils vont le remettre au jour où on va leur demander. Puis c'est comme ça, on a mis notre dépôt avec le Seigneur Jésus. On a mis notre confiance. C'est ça la foi. C'est vraiment de mettre notre confiance en lui, puis en nul autre que lui. Parce que c'est lui maintenant qui s'engage à nous amener à la gloire. Puis on sait qu'il n'y a rien qui peut empêcher le Seigneur Jésus d'achever en nous le travail qu'il a commencé. Donc, au verset 12, on voit, il est bien vrai, c'est Boaz qui parle ici, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Donc ici, Boaz aussi avait à cœur la postérité. Puis c'est une postérité importante parce que ça va devenir la postérité de David. Puis de David va venir le plus grand fils de David, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. C'était de la famille de Peretz qui avait déjà été cette postérité-là, cette lignée-là avait déjà été en danger avec Juda parce que le Seigneur Jésus-Christ vient de Juda. Puis ses fils à Juda sont morts. Le premier est mort, le deuxième n'a pas voulu susciter une postérité à son frère, il est mort aussi. Puis Juda ne voulait pas donner Shéla, son plus jeune fils, parce qu'il avait peur qu'il meure aussi. Mais c'est Tamar qui a fait en sorte que Juda l'a mis enceinte. Puis elle a eu un enfant, Peretz, qui lui continue la postérité. Puis il va le mentionner dans le chapitre 4, Peretz. Mais donc c'est important, mais Boaz. Lui, il a le désir aussi. Donc, lui avait le désir, elle avait le désir, puis ça se rencontre. Quelqu'un a dit déjà, un sauveur qui cherche, puis un pécheur qui cherche, vont toujours se rencontrer. Puis le Seigneur, il veut nous racheter. Puis si le pécheur reconnaît son besoin, puis il veut être racheté, bien, il rencontre un sauveur qui lui aussi veut. Le Seigneur ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça qui est merveilleux par rapport au Seigneur. Mais Boaz rappelle qu'il y en avait un qui était plus proche que lui. Donc, il y avait une parenté plus proche. Puis, Boaz ne pouvait pas racheter à moins que le premier se désiste. Puis là, on arrive encore dans le principe du deuxième. Oui, ça va être le deuxième qui va pouvoir racheter, parce que le premier ne pourra pas. Mais le premier, il devait prouver l'incapacité du premier à pouvoir racheter afin que lui, maintenant, puisse entrer en ligne pour racheter comme étant le second. Le plus proche parent, ben, ce n'est pas en réponse à Steve, le plus proche parent, c'est ce que nous sommes en Adam. Parce on est de la postérité d'Adam en premier. Mais ce qu'on est en Adam, ben, à cause d'Adam, on est lié à la mort puis au jugement. Parce que Adam ayant péché, il a entraîné toute la race humaine dans le péché. Puis étant lié à lui, ben, on est dans la mort. On a le jugement qui s'en vient. Puis Ruth aussi était liée à Élimélec. Elle avait marié le fils d'Élimélec, mais ils sont morts les deux. Et puis le frère aussi de Maclon était mort aussi. Donc, Kiljon puis Maclon sont morts aussi. Donc, dans la famille, dans la postérité, c'était la mort. Et puis la mort ben, rendait impossible que la postérité puisse continuer. La postérité s'arrêtait là. Donc, le plus proche parent, c'est ce que nous sommes en Adam. En Adam, comme on a dit, on est lié à la mort et au jugement, mais puis Ruth était comme ça. On va aller dans Romains au chapitre 7. Romains au chapitre 7 pour voir cette situation-là. Romains au chapitre 7. On va lire les versets 1 à 4. Et Paul dit ici, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc c'est ça ici, c'est ce qu'on était en Adam, ben, on était liés à Adam. Donc c'est pour ça l'importance qu'il devait mourir, on devait mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Puis la seule façon d'être dégagé de ce que nous étions en Adam, c'est de mourir à ce que nous étions en Adam. Comme la femme qui, son mari meurt, elle devient libre de pouvoir être unie à un autre. Puis nous autres aussi, c'est pour ça. Il nous dit que la loi, elle exerçait son pouvoir sur nous tant qu'on était vivants. Puis lui, celui qui avait le droit de rachat, on voit que Boaz l'interpelle dans le chapitre 4 au verset 1. Boaz montait à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Donc, Boaz l'interpelle ici, mais il y a 10 témoins qui viennent en ligne de compte. Ici, on voit qu'il y a 10 témoins qui sont appelés, puis ça nous rappelle les 10 commandements de la loi. La loi avait 10 commandements, puis ces commandements-là, c'est vraiment ce qui nous condamnait parce que on avait brisé la loi. Puis on brisait la loi. La loi nous condamnait. Je disais à ma mère, avant que j'ai dit, maman, à quoi tu te confies pour aller au ciel? Ben, je me confie pas dans les prêtres puis dans la religion, je me confie dans la loi, mais la loi nous condamne. La loi nous condamne parce que si on n'a pas tout fait ce qui est écrit dans la loi, on est anathème, on est maudit, on est séparé de Dieu. Donc, il faut, dans Colossiens 2,14, il dit ici, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, on avait cette loi-là qui nous condamnait, puis c'est ça que les témoins ici, les 10 témoins représentent les 10 commandements pour nous dire qu'en Adam, on était perdu parce qu'on a brisé la loi, puis la loi ne peut pas nous racheter, c'est impossible. Donc, il faut régler cette situation-là. Parce que dans le verset 13, Boaz, il dit, passe ici la nuit et demain. S'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Donc, il faut régler la situation par rapport à la loi qui nous condamnait. Mais est-ce qu'il va pouvoir racheter? Ben, éventuellement, non. Il ne pourra pas racheter parce que dans Romains 3,20, il dit, car nul ne sera justifié. Justifié, ça veut dire déclaré juste. La loi ne peut pas nous déclarer juste parce que la loi constate notre état de péché. Puis elle ne peut que constater le péché et le déclarer qu'on est perdu, à cause de nos péchés, à cause qu'on a brisé la loi, on est condamné. Donc ici, il dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, la loi fait seulement démontrer. La loi, c'est comme un miroir qui nous montre notre état naturel, mais le miroir ne peut pas changer notre état. À cause de la loi, elle nous condamne. Puis, dans le chapitre 4, au verset 6, il va dire finalement, et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Donc, c'est impossible à la loi de racheter. Elle ne pouvait pas nous racheter parce qu'on était en Adam. Il fallait que nous mourions pour que la loi soit satisfaite, parce que la loi nous déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il fallait absolument qu'on meure pour pouvoir revenir à la vie. Donc, étant mort, La loi est satisfaite, puis on devient libre de maintenant être associé au deuxième homme qui va être Boaz pour Ruth ici. C'est le deuxième homme, mais c'est le dernier Adam. C'est le deuxième homme du fait que Adam est le premier homme, puis là maintenant c'est le deuxième homme, mais c'est le dernier Adam du fait qu'il n'y en aura pas un autre. Parce qu'il n'y en a pas besoin d'un autre. Parce que le Seigneur va accomplir parfaitement qu'est-ce qu'il va avoir pour ne plus jamais. Vous savez, quand on est sauvé, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est sauvé pour l'éternité. Puis, quand on pense à l'éternité, ben, c'est impossible qu'on puisse retomber dans l'éternité. Parce que le Seigneur, il va nous avoir sauvés, il nous a donné la vie éternelle. C'est ça qui est maintenant vraiment merveilleux. Mais dans la chair, c'est impossible. Dans Romains 7, versets 5 à 6, il dit, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, parce que c'est comme ça, hein? Si on dit à quelqu'un, un enfant, ben, touche pas à ça, ben, touche pas à ce jouet-là, il peut avoir bien des jouets dans la salle, mais si on lui dit de ne pas toucher à ce jouet-là, ben là, il n'en reste rien qu'un pour lui, là. Il y a juste celui-là qui est défendu. Puis c'était comme ça pour Adam et Ève. Hein? Quand le Seigneur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas manger, mais il n'en restait plus rien qu'un pour les autres. C'est celui qui était défendu, puis c'est là qu'ils sont tombés. Mais c'est comme ça que la loi, vous savez, quand on donne la loi, ben, à cause de notre chair, tout de suite, on est provoqué à briser la loi. Puis c'est pour ça qu'il dit ici, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Donc la loi était venue pour nous démontrer notre besoin d'un sauveur. Puis la loi, quand la loi est venue, ben, j'ai péché, puis je suis tombé. Donc il fallait être dégagé de cette loi-là. Mais comme Boaz devait dégager Ruth de ce proche parent pour qu'elle puisse devenir sa femme, ben, nous aussi, il fallait être dégagé de cette loi-là. Dans Romains 8, 2, 4, parce que Romains 8, c'est l'antidote de Romains 7. Romains 7, c'est la loi, c'est la mort. Puis finalement, il finit par dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, le chapitre 8 répond à cette difficulté-là de cet homme-là qui dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Bien, c'est le chapitre 8 qui va délivrer. Puis c'est pour ça que dans Romains 8, verset 2, 4, verset 1, dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Adam, on avait toute la condamnation. Mais maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 2 à 4, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie. Vous voyez, on était mort, mais là, c'est la vie qui vient agir. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais comment est-ce qu'il l'a condamné? Ben, il dit, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, le Seigneur Jésus, il a pris une chair, il est devenu un homme semblable à nous sans le péché, mais il a été condamné pour nous à cause de nos péchés. Lui, il a pris nos péchés en son corps sur le bois. Puis c'est lui qui a fait face à la colère divine, au jugement que nous méritions. Donc, maintenant, on peut dire que la loi réclamait qu'on meure, mais on peut dire maintenant, on est mort en Christ. Puis c'est ce que ça représentait pour Ruth d'aller découvrir les pieds de Boaz, puis se coucher à ses pieds dans la nuit. Eh bien, ça représentait qu'elle s'était identifiée avec le Christ dans sa mort. Puis maintenant, ben, elle va vivre dans cette nouvelle vie-là. Le matin vient, Boaz s'en rend dans la ville pour aller accomplir le rachat. Puis maintenant, elle va vivre une nouvelle vie. C'est ça qui va être important. Donc, la loi réclamait la mort et nous sommes morts en Christ. Donc, maintenant, nous vivons d'une vie nouvelle. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont morts avec Christ, sont ressuscités aussi avec Christ. Parce que quand on a été mis comme une même plante avec Christ, on l'a suivi dans la mort, on l'a suivi dans l'ensevelissement, puis on le suit aussi dans sa résurrection. Puis là, c'est là qu'on commence à vivre d'une vie nouvelle. Donc, c'est pour ça que le Seigneur Jésus avait dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'était étrange pour Nicodème parce que Nicodème, il se demandait comment, puis le Seigneur va utiliser une situation de l'Ancien Testament que Nicodème connaissait. C'est quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, on en a parlé, quand le serpent, quand les serpents mordaient quelqu'un, ben il mourait. Mais la façon de vivre, de ne pas mourir puis de vivre, c'était de regarder au serpent. Puis quand on regardait au serpent, ben on vivait. Puis c'est ça, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, il explique à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau. C'est important. Et puis elle doit, comme c'est pour ça que le Seigneur, au verset 14, Boaz lui avait dit, elle restait couchée à ses pieds jusqu'au matin. Donc, il fallait qu'elle reste couchée à ses pieds jusqu'au matin. Puis le matin, ben, c'est la résurrection. C'est la résurrection qui va s'accomplir. Pour vivre la nouvelle vie, il faut être ressuscité. Il y a des gens qui, dans la religion, ils essaient de vivre cette vie spirituelle-là, mais ils ne peuvent pas la vivre parce qu'ils ne sont pas ressuscités. Ils ne sont pas morts, premièrement, encore dans leur péché, puis ils ne sont pas ressuscités. Ils ne peuvent pas vivre de cette nouvelle vie-là. Dans Éphésiens 2, les versets 5 à 6, il dit, nous qui étions morts, ça, il parle au passé pour ici les Corinthiens, il parle au passé, mais il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, il parle au passé ici. On était mort, mais maintenant, on est ressuscité. Puis, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a accès aux lieux célestes. Comme le peuple d'Israël, ils devaient rentrer dans le pays, mais ils ont passé par la mort dans le Jourdain, puis ils ont ressorti de l'autre côté vivants. Puis ils ont pu entrer dans le pays, puis c'est là qu'était leur bénédiction, eux. Les bénédictions étaient dans le pays, il y avait un combat à livrer, mais le Seigneur leur donnait la victoire sur les habitants du pays pour qu'ils puissent vivre maintenant comme un peuple nouveau, le peuple de l'Éternel. Ils pouvaient démontrer le caractère de Dieu, du Dieu qui les avait sauvés de l'Égypte, puis qui les avait fait rentrer dans le pays. Donc, nous aussi, maintenant, on a été ressuscités ensemble, puis on est assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puis tout ça va s'accomplir pour Ruth dans le chapitre 4. Là, on va voir ça quand on va arriver là. Mais au verset, c'est sûr que quand on pense. Il y a la résurrection du corps à venir. Ça, c'est pas encore fait. C'est quand, à la venue du Seigneur, on va ressusciter, comme il nous dit. Nous ne mourrons pas tous, mais ceux qui sont. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis ou qui sont morts, mais au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, puis nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous serons transformés. On n'aura pas besoin de mourir physiquement, mais notre corps va être transformé pour revêtir ce corps céleste, ce corps spirituel, ce corps qui va être sans péché pour pouvoir aller dans la présence du Seigneur. Mais spirituellement, on est ressuscité, on est vivant en Christ maintenant. On a la vie éternelle déjà, puis on attend la rédemption de notre corps. Mais dans le verset 15, il lui dit, il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Donc, il dit, donne le manteau qui est sur toi. Le vêtement, ou ici le manteau, c'est tout un thème dans l'Écriture. Hein. On sait que Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, puis ils en ont eu honte, qu'ils étaient nus, parce qu'ils étaient tout est nu et découvert aux yeux de celui avec qui nous avons affaire. Le Seigneur sait exactement, à cause de notre péché, il connaît. C'est pour ça que Adam, il a eu peur, puis il s'est caché, parce qu'il était maintenant un pécheur devant un Dieu trois fois saint. Puis il savait que Dieu ne pouvait pas tolérer le péché, puis vraiment il méritait la mort, mais pour le revêtir, il fallait que Adam et Ève soient revêtus. Ils avaient même compris ça, eux, parce qu'ils s'étaient fait une ceinture de feuilles de figuier. Ça, c'est comme les œuvres que quelqu'un veut faire pour être revêtu. Mais ça n'a pas fonctionné parce que quand la voix du Seigneur est venue dans le jardin, ils se sont cachés derrière les arbres. Ils se sentaient encore nus avec leurs feuilles. Puis on sait que la parole de Dieu nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, il nous parle de vêtements. Ce n'est pas un vêtement de salut, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Donc, c'est pas, on ne veut pas se présenter avec nos bonnes œuvres, mais on a besoin d'être revêtu d'un manteau. C'est pour ça qu'il lui demande de prendre son manteau, puis il va le remplir son manteau. Dans Ésaïe 61, 10, on voit ça. C'est un thème à travers toute l'Écriture, le vêtement, là. Hein, quand on arrive à la fin dans l'Apocalypse, là, il dit, il lui a été donné d'être revêtu de vêtements de lin, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, l'épouse, elle est revêtue quand elle arrive devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans Ésaïe 61, 10, il dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme le fiancé se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. C'est quelque chose, quand on pense à ça, il dit que la terre fait éclore son germe. On met un grain en terre, puis ça fait éclore le germe. Puis le jardin, bien, il fait pousser sa semence. On met de la semence dans un jardin, puis ça pousse. C'est la même chose ici avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait germer le salut. Puis il nous a, comme il dit ici, il nous a revêtus de vêtements du salut. Il nous a couverts du manteau de la délivrance. Ça, c'est merveilleux. Mais dans son manteau, il verse six mesures. Six mesures, donc c'est une partie de la récolte, ça, ces six mesures-là, parce qu'il est en train de vanner les orges dans l'air. Donc il prend une portion de cette récolte-là qui lui appartient, c'est sa récolte à lui. Puis il prend une partie de sa récolte, puis lui en donne six mesures qu'il met dans son manteau, puis il dit qu'il ne va pas la laisser retourner vers sa belle-mère à vide. Donc il lui donne déjà une partie, mais six, ce n'est pas la perfection. Six, c'est une partie, mais ce n'est pas la perfection. Mais la septième partie, ça va être Boaz. Parce qu'en ayant Boaz, ben, elle va pouvoir partager toute la récolte. Parce que maintenant, étant avec lui, ça va lui appartenir aussi. Nous, on est devenus héritiers de Dieu, puis co-héritiers avec Christ. Il nous a fait devenir enfants de Dieu. Par adoption, on est entré dans la famille de Dieu, puis avec tous les privilèges de la famille, tout ce qui appartient à la famille, mais il nous appartient aussi. Puis nous, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est vraiment merveilleux quand on pense à ça, il lui donne. Mais dans le chapitre 4, là, elle va partager le reste de la récolte avec lui. Ça va être aussi, cette récolte-là va devenir la sienne aussi. Puis c'est pour ça que, vous savez, elle va devenir son épouse. Mais il faut s'arrêter à méditer. Quand on est sauvé, là, on fait partie de l'épouse de Christ. Puis, il y a des gens qui cherchent des bénédictions spirituelles. On les a toutes. Avec lui, on les a toutes. Il s'agit de les découvrir. C'est comme un cadeau. Vous savez qu'on reçoit un cadeau. Puis des fois, il y a des gens qui font ça. Ils prennent un cadeau, ils l'emballent plusieurs fois pour que quand les gens déballent le cadeau, ben, ils déballent, puis là, ils retrouvent un autre emballage, ils déballent encore un autre emballage, puis ils déballent pour arriver à la fin avec le cadeau. Puis c'est un peu comme ça, la vie éternelle que le Seigneur nous donne. C'est un cadeau, on a tout. On l'a complet. Au moment du salut, on peut pas en avoir plus, on l'a tout. On peut pas en avoir moins non plus. On l'a tout, mais on passe toute notre vie à le découvrir. On passe toute notre vie à le déballer. Vous savez, plus on le déballe, plus on est joyeux, plus on réalise la grandeur de ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, c'est ça vraiment. Mais il dit, Dans 1 Corinthiens 15, 20 à 22, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Donc, il y a un homme qui a amené la condamnation, puis il nous a entraînés dans cette condamnation-là, mais il y a un autre homme qui est venu. Le dernier Adam qui est venu, qui lui nous a entraînés, il nous a entraînés dans la bénédiction, dans la vie. Ça, c'est donc, comme je dis, il y a la résurrection du corps à venir, mais déjà spirituellement, on est ressuscité en Christ. Ceux qui sont sauvés sont ressuscités en Christ. Puis la septième mesure, ben, ça va être Boaz lui-même. Comme dans Colossiens 2, 9 à 10, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Seigneur Jésus, il est complet. Quand on a le Christ, on a tout. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Une fois, je travaillais, j'étais au travail, puis quand on travaille sur le gypse, ben, souvent les gens y écrivent sur le gypse, ils écrivent des choses, mais ça va partir après que ça va avoir été peinturé, ça va être caché. Mais il y avait quelqu'un qui avait écrit, un des travailleurs, il avait écrit, celui qui a Christ, il a tout, même s'il ne possède rien. Et celui qui possède tout, mais qui n'a pas Christ, ne possède rien. Puis il y avait le gars qui travaillait avec lui, il vient me voir, il dit, Gérald, Gérald, viens ici, viens voir ça. Il dit, c'est-tu dans la Bible, ça? Fait que là, il me montre ça. Ben, je ne sais pas écrit comme ça dans la Bible, mais c'est ça que la Bible, c'est le message de la Bible. Si, puis j'ai demandé à celui qui avait écrit ça, j'ai dit, est-ce que toi, tu as le Christ? Il dit non. J'ai dit, ça veut dire que tu n'as rien du tout. Il dit, ouais, c'est ça, j'ai rien du tout. Puis c'est drôle qu'il avait écrit ça quand même, mais il avait réalisé, quand on a Christ, on a tout. Dieu, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le Seigneur a rien ménagé. Il nous a donné toutes choses en Christ. Puis vous savez, ceux qui cherchent à avoir d'autres, qui parlent d'une deuxième bénédiction, on n'a pas besoin d'une deuxième bénédiction. On a la première bénédiction, on comprend tout. Puis c'est vraiment merveilleux. On a tout pleinement en lui, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu s'est donné lui-même à nous. Comme Boaz va se donner à Ruth comme époux, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné comme époux pour nous. Puis ça va être vraiment merveilleux pour nous. Puis c'est de le découvrir, puis d'en profiter, puis d'en jouir. Vous savez, c'est sûr que dans l'éternité, on va en jouir pleinement pendant toute l'éternité, mais déjà présentement, on veut en jouir, on veut posséder, on veut découvrir ce que nous avons en Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Un chrétien qui jouit de son bonheur en Christ, ben, c'est un chrétien heureux. Malgré les circonstances, malgré les adversités, malgré les problèmes, et quand on regarde au Seigneur Jésus, on est rayonnant de joie parce que il vaut plus que toutes les autres choses. Il n'y a rien sur la terre qui peut valoir autant que lui. Mais au verset 16, Ruth revint. Au verset 15, on voit qu'elle, il a donné les 6 mesures d'orge dans son manteau. Mais il nous est dit, puis il rentra dans la ville. Le matin est arrivé, il rentre dans la ville. Puis on va voir pourquoi qu'il est rentré dans la ville, parce que là, c'est important, il y a un travail à accomplir. Puis il rentre dans la ville pour aller accomplir ce travail-là pour elle. Mais au verset 16, Ruth, elle revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Bon, elle revient vers sa belle-mère parce que lui est rentré dans la ville pour accomplir ce qu'il avait accompli, mais elle revient vers sa belle-mère. Nous autres, on avait dit à la fin du chapitre 1, là, tout ce qui s'était passé dans la journée avec Boaz et avec les servantes de Boaz, ben, Naomi n'était pas au courant. Elle attendait le soir, puis nous, on l'a suivi parce qu'on était avec Ruth, mais elle l'apprend de Ruth. Puis la même chose à la fin du chapitre 3, elle a attendu, puis là, Ruth revient le soir, mais Naomi a besoin de se faire raconter ce qui s'est passé parce qu'elle n'est pas au courant. Nous autres, on l'est, mais elle ne l'est pas encore. Puis c'est comme ça, vous savez, quelqu'un, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, qui vient d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ? Ben, tout de suite, on dirait qu'on a un désir dans notre cœur de le témoigner. On a le désir de le partager parce que c'est tellement merveilleux. Moi, je m'étais dit ça quand j'ai été sauvé. J'ai dit, ça se peut pas que quelqu'un refuse. Puis je pensais de faire les maisons du village, puis que tout le monde serait sauvé dans le village à la fin. Mais c'est pas comme ça. Mais on a un désir. Le Seigneur, au moment où on connaît le Seigneur Jésus-Christ, on a un désir de le partager. Puis c'est ce que Ruth a fait avec Naomi. Elle partage avec elle ces choses-là, parce que avec les 6 mesures d'orge aussi. Mais elle dit, Aise-toi, ma fille. Vous savez, quand quelqu'un est sauvé, là, ben, il n'est plus le même. Il y a une différence. Puis les gens s'en rendent compte. Ils vont dire des fois, ils vont dire, c'est plus la même personne. Parce que cette personne a été transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Puis elle dit, Aise-toi, ma fille. Pourtant, elle devait la connaître auparavant, mais là, maintenant, il y a une différence. Puis c'est ce que Paul disait, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Puis des fois, on voit des gens, hein, puis on dit, ouf, on pense à eux autres, ils seraient sauvés. Tout un bagage, comme moi, j'avais tout un bagage. Mais le Seigneur commence une œuvre en nous. Par son esprit, il commence à nous montrer des choses. Puis tout d'un coup, non seulement il nous montre des péchés dans nos vies, mais aussi il nous donne d'avoir la victoire sur le péché. Ça, c'est vraiment merveilleux, vous savez, que de voir des choses qu'on n'était pas capable d'avoir la victoire auparavant, mais maintenant qu'on est sauvé, l'esprit, la puissance de l'esprit en nous nous fait vivre, nous fait sortir de ces choses-là pour pouvoir vivre. Puis ça fait une différence, les gens vont s'en rendre compte. Il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il avait été sauvé, puis il n'y avait personne qui s'en était aperçu, mais là, ce n'est pas un bon rapport, ça. Quand quelqu'un est sauvé, puis il arrive dans son milieu de travail, ou dans sa famille, ou dans son voisinage, avec ses amis, ça fait toute une différence. Puis les gens, ils vont remarquer cette différence-là, parce que ça commence pas de l'extérieur, ça commence dans l'intérieur, mais dans l'intérieur, ça finit par se démontrer dans l'extérieur. La religion, c'est d'essayer de changer l'extérieur, mais ça ne change pas vraiment parce que la chair revient toujours. Mais avec le Seigneur, ça commence de l'intérieur, dans le cœur. C'est là que l'esprit fait son travail, puis finalement, ça se transmet dans des pensées différentes, dans des paroles différentes, dans des actions différentes. C'est ça, la vie chrétienne, ça fait toute une différence dans nos pensées. Ça commence dans nos pensées, mais ça se traduit dans nos paroles, puis dans nos actions. Ça, c'est vraiment important. Donc, Ruth témoigne à sa belle-mère tout ce que Boaz a fait pour elle. Puis, elle dit à sa belle-mère, au verset 17, elle dit, Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Alors, elle est pleine, elle est remplie. Elle est remplie parce que, mais elle n'a pas encore toute la plénitude, mais elle a commencé à goûter que l'Éternel est bon. Au verset 18, et Naomi dit, Sois tranquille, ma fille. Naomi était au courant de ces choses-là, puis elle savait qu'est-ce qui allait se passer. À partir de là, Naomi pouvait prédire que, avec qu'est-ce qu'elle a vu, les 6 mesures qu'il avait données, c'est comme un gage qu'il avait donné envers elle. Puis, du fait qu'il l'avait bien reçu quand elle est allée pour aller découvrir ses pieds, puis se coucher à ses pieds dans la nuit, ben, il l'avait bien reçu. Puis ça, c'était vraiment la preuve qu'il l'avait bien reçu. Puis, Naomi, à partir de là, peut dire, elle avait dit au début, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse, mais là, maintenant, elle peut dire. Sois tranquille, ma fille. Puis c'est dans la tranquillité qu'on va connaître le Seigneur. Hein. C'est de se tourner vers lui, puis de le voir lui agir en nous. Elle dit, Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Puis c'est merveilleux le salut, vous savez, ça commence quand on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est toute une expérience il nous fait passer à travers toute l'expérience puis là, ça va être la résurrection de vie qui va entrer en elle. Puis elle dit, Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Seigneur Jésus ne s'est pas reposé jusqu'à ce qu'il soit sur la croix. Là, il a reposé sa tête, puis il a rendu l'esprit, puis il est allé au tombeau, puis il était. Après ça, il est ressuscité le troisième jour. Puis là, il est venu vers ses disciples dans la résurrection, puis les promesses qu'il leur avait faites, puis il leur a fait encore des promesses. Puis là, il leur a dit d'attendre cette puissance qui viendrait d'en haut. Puis le Seigneur, comme le Seigneur, il veut vraiment nous sauver. C'est ça, des fois, les gens, ils ont de la misère. Hein. Ils demandent au Seigneur d'être sauvés, mais j'ai-tu demandé comme faux? C'est pas en rapport avec nous autres. Le brigand sur la croix, là, c'était pas un homme qui était habitué à prier, là. C'était un brigand. C'était un homme qui méritait la condamnation qu'il avait. Puis, tout simplement, il a juste dit, Seigneur, il a reconnu que le Seigneur était pas crucifié à cause de ses péchés, parce qu'il n'y avait pas de péché, mais il a juste demandé tout simplement. C'était pas une prière éloquente. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'était suffisant. Comme le geôlier de Philippe, dans la nuit, il a réalisé sa perdition, puis il s'est précipité vers eux, puis il a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Puis le message était très, très simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est tellement simple, là, mais il s'agit de prendre Dieu au mot. Dieu le dit. Si celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, c'est tellement simple, puis c'est tellement merveilleux. Puis elle, maintenant, elle doit se tenir tranquille. Elle dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Là, tu observes l'œuvre du Seigneur en toi. Puis il dit, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Puis on va le voir dans le chapitre 4, comment il va agir en sorte que il va assurer le repos de Ruth, il va continuer la postérité, il va donner une bénédiction pleine, complète à Ruth, parce que c'est lui qui a le droit de rachat, et il va racheter, parce que lui, il est non seulement un peu comme le lépreux qui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur, mais le Seigneur a dit, je le veux, sois pur. S'il voulait, il était capable de le faire, mais là, Boaz, il veut et il va l'accomplir. Il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Donc, c'est ça qui va assurer le repos de Ruth ici. On va le voir la prochaine fois dans la nouvelle, l'année prochaine. On regardera l'année prochaine. On va s'arrêter pour le temps des fêtes. Puis, on va revenir en janvier. Je crois que c'est le 5 janvier. Donc, on s'arrête là pour ce soir. Je m'arrête là, puis je vous donne la possibilité de reprendre votre micro. Afin que si vous avez des commentaires ou des questions, ben on va faire ça pendant un peu de temps là, ici.
Un petit commentaire général.
Oui.
J'ai trouvé ça beau quand tu as parlé des six mesures.
Ouais.
Alors, comme tu as dit, quand on a Christ, on a tout. On peut dire que maintenant, nous avons six mesures. Six, c'est le chiffre d'homme,
Ouais.
une parenthèse entre autres. Et puis un jour, bien, nous aurons la septième mesure, le chiffre céleste.
On l'a déjà parce que Christ en vous l'espérance de la gloire. Hein. Vous avez tout pleinement en lui maintenant. On l'a déjà, ça. Ah
Ouais, on en a beaucoup, en tout cas, on a six quand même, là.
oui.
Ouais.
Ouais. S'il y en a des fois qui ont de la difficulté, j'essaie de prendre en tête que mon écran est figé, là. Donald, est-ce que tu as pris ton micro? Est-ce que tu avais quelque chose? Ou de Marie?
En fait, le fait qu'il dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ça? Pourquoi il dit ça? On a-tu perdu Gérald?
Gérald a perdu sa connexion. Hein. On va attendre un petit peu, il va voir.
Voilà. Là. C'est parti. Il est au chalet.
Il est parti pour le temps des fêtes.
Peut-être
Peut-être
ça a été Noël suite, oui. Bonjour
son
tout
petit-fils.
le monde, on s'excuse, on était en retard, on a eu de la misère avec l'entente en partant. C'est bon, ouais,
Bonjour.
bonsoir. Nous, bonsoir.
L'essentiel, c'est que vous soyez là. Hein?
Ah oui, on entendait, mais genre, j'étais pas capable d'avoir le fichier, là.
C'est bon de vous revoir.
Bien sûr, merci, David.
Lévi, tu m'as comme enlevé mon commentaire sur les 6 mesures.
Oui,
Oui,
bon, tu
puis
parles, Richard.
j'apprécie que maintenant, on ne peut pas jouir pleinement de l'héritage et que bientôt, dans la gloire, puis pour ça, il faut qu'on meure, il faut que notre corps disparaisse, pour qu'on soit revêtu de notre nouveau corps. Sans ça, on ne pourra pas jouir pleinement de l'héritage. Mais en attendant, on a des arts de l'esprit, c'est nos 6 mesures de grain.
Je m'excuse, j'ai oublié de sortir. Mon écran était gelé.
Marie, on a une question
C'est
pour toi,
toi,
là.
Marie avait, ouais, c'est ça, Marie avait commencé.
Oui, j'avais commencé à dire, en fait, est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter sur le fait qu'il dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'ère?
Parce que là, c'est ça, elle s'était identifiée dans la mort, mais elle va maintenant être révélée dans cette nouvelle vie-là, là. C'est dans la vie de résurrection. Elle va être manifestée dans le chapitre 4. Puis nous, il dit, vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
OK.
Ça peut être
Alors,
un.
c'est parce que c'est la mort, comme tu disais, ça représente. Donc, là, à ce moment-là, il faut que ça soit caché, mais avoir, comme tu dis, vu que ça réapparaît dans le chapitre 4 avec lui,
Là, c'est ça.
dans
Là,
la
c'est ça.
résurrection.
Ouais. Dans le chapitre 3, c'était ma fille. Puis dans les autres chapitres, c'était ma fille. Mais maintenant, ça va être son épouse. C'est une nouvelle vie.
Merci.
C'est un peu comme nous autres quand on est venu à l'Évangile, j'imagine, on est entré dans la lumière.
Ouais.
Ouais. En attendant.
Elle va être manifestée dans le matin. Dans la nouvelle journée.
En attendant le chapitre 4.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai hâte au
Ben oui.
chapitre
Déjà, on y a fait mention un peu du chapitre 4, quand même, pas
4.
mal, là.
On voit, Gérald, c'est une belle image que Boaz dit au verset 15, il donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Ça nous montre que quand on a mis le Seigneur dans notre vie, il nous a revêtus. Puis en plus, il dépose de quoi en nous, il met de quoi en nous. Puis on voit qu'ici, c'est lui qui prend les mesures. C'est lui qui les dépose. Puis il prend le temps de les mesurer aussi parce qu'il dit bien 6 mesures. On voit que le Seigneur, il nous met des choses, ce qu'il met sur nous, on sait qu'on peut le porter. C'est vraiment beau de voir ça, que Boaz, il prend le temps de mesurer, puis c'est une belle image du Seigneur. Quand on vient au Seigneur, le Seigneur ne nous mettra pas des fardeaux impossibles à porter. Il va nous donner des choses qu'on peut accomplir, qu'on peut faire, mais il faut lui donner le manteau, par exemple.
Et
En
ça nous
même temps,
donne aussi le.
oui.
Ça nous, où
Oui,
est-ce qu'il dit?
vas-y, vas-y, Raymond.
Ça nous donne aussi la preuve que Dieu prend soin de nous aussi, là.
Ouais,
C'est
ouais.
Boaz, il pourvoit ses besoins aussi.
Ouais, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et nous remplit, oui.
Ça, c'est spécial aussi, tous les titres qu'il y a dans la parole de Dieu.
Ouais.
On se rappelle que les types, c'est des images,
Ouais.
tandis que l'antitype, c'est la réalité.
Ouais.
Puis là, par rapport au premier qui avait le droit de rachat, ben le type, c'est le premier Adam
Ouais.
qui est perdu, tandis que celui qui a le droit de rachat, Boaz, qui est celui qui a eu le droit de rachat après Boaz, ben c'est le deuxième Adam
Ouais.
qui pouvait nous racheter.
Ouais.
Il y a plein de types comme
Ouais.
ça dans la parole de Dieu. Il s'agit de discerner,
Ben
de
c'est ça,
trouver.
ouais. Ouais.
Par les liens,
Ouais.
parce que des fois, ils sont dit directement dans le Nouveau Testament que c'est vraiment un type, mais il y en a plein que ce n'est pas dit directement, mais il y en a qui vont dire qu'on devrait pas en trouver d'autres, mais il y en a d'autres.
Ben, je pense que le Seigneur Jésus en avait beaucoup quand sur le chemin d'Emmaüs, en commençant par Moïse, par les prophètes, puis dans toutes il y a toutes les choses qui concernaient, là.
Quand Ruth est allée vers Naomi, puis Naomi est heureuse de savoir qu'est-ce qui s'était passé. De mentionner, c'est vrai, lorsqu'on vient à l'Évangile, on veut faire connaître l'Évangile, hein? On veut la partager, ça bouillonne entre nous. C'est pas, on n'est pas toujours reçu, mais quand on vient à l'Évangile, puis qu'on va vers quelqu'un qu'on connaît, qui appartient au Seigneur, il est content, il est heureux. Elle est heureuse, hein? Alors, je vois cette image-là avec Ruth qui s'en va vers Naomi. Les deux sont heureux, là. Hein? Je trouve ça beau. J'ai trouvé ça de l'image.
Parce que la bénédiction de Ruth devient la bénédiction de Naomi aussi. Dans le chapitre 4, on va le voir, là. Parce que c'est Naomi, elle a reçu aussi. Verset 16, elle dit, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Puis les femmes, ils la disent bienheureuse, là, parce que elle, c'est la postérité aussi, là. C'est sûr qu'on se réjouit quand Paul s'est converti. Mais là, quand il est arrivé à Jérusalem, les autres craignaient. Mais c'est Barnabas qui l'a pris, puis il l'a présenté aux autres pour qu'ils puissent réaliser qu'il s'était vraiment converti. C'était comme impossible, là. C'est lui qui tuait les chrétiens. Maintenant, il prêchait le Christ.
Moi, si vous me permettez, je vois un peu une comparaison du verset 18. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et je vois peut-être un lien avec Jean chapitre 14 et au verset de 1 à 6, on peut dire que quand tu dis ici, il ne se donnera point de repos que tout va terminer. Mais le Seigneur Jésus, présentement, il ne se donne pas de repos jusqu'à temps qu'il est en train de nous préparer une place. Quand ça va être terminé, il va venir chercher. Quand Boaz va finir cette affaire, il va prendre Ruth pour son épouse. Alors, moi, je vois un peu une comparaison de voir que le Seigneur Jésus, même s'il est au ciel présentement, on peut dire qu'il. Encore. Spirituellement parlant, il ne se donne point de repos jusqu'à temps que tout son plan va être réglé et réalisé. Ensuite, il va venir chercher son épouse. Comme Boaz, quand tu vas avoir tout fini de réaliser toutes les choses qu'il doit faire, il prend Ruth pour son épouse.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai vu vraiment un lien, une comparaison entre les deux, que les deux personnes, comme tu disais, Donald, Boaz est le dernier Adam, si on peut dire, comme le Seigneur Jésus. Et je vois beaucoup que dans Boaz, c'est un homme qui veut finir, il veut compléter cet ouvrage-là. Il veut
Tout
la
accompli.
finir. Il a vraiment, il persévère dans ça, comme le Seigneur Jésus persévère aussi dans l'homme qui est en train d'accomplir. Il a accompli une œuvre sur la terre. Mais présentement, ben, il prépare une place au ciel. Si vous
Ça
êtes
fait.
d'accord avec ça.
Ben oui. Si ça fait 2000 ans qu'il prépare une place, imaginez comment est-ce qu'elle va être belle.
On n'aura
Mais
pas
le
fait
Seigneur.
le tour, ça doit arriver. Oui, mais ça va être merveilleux quand on va être rentré dans cette place-là. Ça va être merveilleux. Enfin, en peut-être l'éternité.
On peut
Le
dire
Seigneur
qu'on.
Jésus.
Oui, vas-y,
Ouais,
Donald.
le Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur ne se donne pas de repos non plus, parce qu'il
Exactement.
intercède constamment
Right.
pour nous.
Ouais,
Ouais.
parce que dans le temple, les sacrificateurs ne s'assoyaient pas, il n'y avait pas de siège.
Ouais.
Il est officiel, il restait debout.
Bonne idée, ça, Donald.
Eh bien, je pense qu'on est, ouais, on est arrivé à l'heure, ça qu'on va terminer avec un mot de prière. Puis s'il y en a qui veulent discuter, on pourra discuter. Sinon, les autres pourront partir, ceux qui doivent partir. Ça fait qu'on va terminer. Seigneur notre Dieu, on te remercie de toutes ces choses que tu nous montres dans ta parole. Ça réchauffe notre cœur, Seigneur, ça nous réjouit. Parce que oui, notre Boaz ne se donnera pas de repos parce qu'il est à nous préparer une place. Puis il va revenir comme il nous en a promis pour nous prendre. Pour être avec lui pour toujours. Merci, notre Dieu, pour ce salut si merveilleux, accompli une fois pour toutes et par une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Puis on te demande de bénir chacun dans le temps des fêtes, les temps qu'on va passer dans les familles, tout ça. On te demande, Seigneur, de bénir, donner des occasions aussi de pouvoir témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Puis pour notre sœur Lucie aussi, qui va avoir une opération, on te demande d'avoir ta main sur elle. On te remercie pour tout, Seigneur, puis on te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.